Bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio Galaxie. Aujourd'hui, nous retrouvons Éco en folie, l'économie en folie avec Bernard Ferrand. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de deux choses aujourd'hui. En tout cas, on va essayer à notre niveau de parler de l'impact sur l'économie française de cette élection présidentielle. En principe, vous le disiez dans la préparation, tout se met au ralenti pendant une campagne électorale, qu'elle soit d'ailleurs française ou dans un autre pays. Mais là, cette fois, en France, on ne connaît pas ce ralenti. On continue de vivre normalement. Est-ce que ça accélère une reprise avant peut-être justement le ralentissement de la pré-élection ? Expliquez-nous un peu.
Expliquer, c'est quelque chose, un phénomène étonnant. D'une manière ancienne, lorsqu'il y a une élection présidentielle en France, et c'est souvent le cas dans les autres pays, le monde des affaires, comme on dit d'une manière générique, se met en situation d'attente. Qui va gagner ? Quels sont les programmes ? À quoi on peut s'attendre ? Ça soulève un petit peu d'incertitude. Et la décision économique, d'une manière générale et habituelle, n'aime pas l'incertitude. C'est justement réduire les incertitudes. Donc, ça peut générer certains soucis. Alors, certains ménages se mettent en attente, ils disent « Oh ben, on verra le mois prochain, peut-être, pour acheter ceci ou cela. » Attente. Donc, moins de business, moins d'achats. Le milieu des affaires dans les entreprises fait la même chose. Telle décision, oh mais non, attendez, après les élections, on décidera en juin. Pour l'instant, on va voir qui va gagner, quel est le programme qui l'emporte, comment ça évolue. C'est ça qui se passe traditionnellement. Or, cette année, extraordinaire. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais le monde des affaires, l'activité économique continue. On a en Europe une reprise, pas très forte, mais elle y est. Elle se poursuit en France. Habituellement, les ventes d'automobiles lors des mois des présidentielles, les trois mois avant une présidentielle, la vente de véhicules d'habitude stagnait. Ben, elle continue à progresser cette année. Les achats, les anticipations continuent. Et même d'une manière extraordinaire, dans le milieu boursier des entreprises, on est à un chiffre d'activité depuis le mois de janvier qui est un chiffre à caractère exceptionnel. Et donc, si ça continue, ça voudra dire eh bien, que d'ici la fin du mois d'avril, pendant l'émission, en fait, eh bien, le business n'est pas bloqué dans l'économie française. Ça signifie certainement deux choses. La première, c'est que finalement, les présidentielles n'inquiètent plus, ne font plus souci par rapport à la population, les décideurs, ceux qui font des affaires.
Oui, mais est-ce que plutôt on ne pourrait pas penser que justement le consommateur consomme parce qu'il a peur justement de l'après-élection ?
Mais justement, dans l'économie, il y a toujours un élément psychologique qui est très fort et souvent on l'oublie. C'est dans le comportement, il y a l'idée que l'on se fait du futur pour soi, pour les autres, pour ses affaires. Et donc, à partir du moment où vous soulevez un peu d'inquiétude, vous poussez les gens, les sociétés, à investir moins, à acheter moins, et plutôt à épargner, comme on dit dans les ménages. Ou attention demain, faites attention à ceci, donc constituez tout de suite un petit peu d'épargne ou augmentez votre épargne. L'argent qui est mis dans l'épargne, eh bien, c'est de l'argent qui ne va pas directement dans les affaires. Certes, cet argent va financer le déficit public de l'État ou de la sécurité sociale, mais il ne va pas directement dans les hypermarchés, sur le marché, dans le circuit court, etc. Et c'est là qu'il y a toujours cet élément psychologique. Ça peut être celui qui est responsable d'une entreprise, un salarié, un retraité. L'élément psychologique est très important dans la vision que l'on a et donc sur l'économie.
Mmh. Et que penser justement de cet état de fait ?
Ben, on peut penser que les Français aujourd'hui estiment que la présidentielle n'aura finalement pas beaucoup de conséquences. Ça inquiète pas finalement. C'est étonnant.
Est-ce qu'on pourrait dire que les Français en ont un ras-le-bol, justement, de cette danse politique ?
Non, on peut pas tirer ce type de conclusion. Du point de vue économique, non. Ils ne sont pas inquiets.
D'accord.
Ils se disent que la machine continue et échappe à ça. On pourrait presque dire que pour certains Français, c'est un spectacle. Voilà.
Oui.
Ça ne changera rien à l'évolution économique.
D'accord.
Ce qui serait étonnant.
Alors, est-ce que les Français, par contre, sont plus inquiétés par le Brexit de l'Angleterre que par, justement, ce fait d'élection française ?
Je ne sais pas. par rapport au Brexit. Il y a une partie de la population, il y a une partie des entreprises qui se posent des questions par rapport au Brexit. Dans les premières conséquences économiques, puisqu'on ne peut pas anticiper les négociations qui sont annoncées très très dures, ce que l'on constate, par exemple, c'est que en Angleterre, comme ça a été d'ailleurs le cas aux États-Unis, les étrangers qui sont en Angleterre cherchent à tout prix, ce qui est un peu nouveau, à obtenir les papiers légaux pour travailler en Angleterre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On pouvait travailler sans avoir tous les permis, etc. Donc il y a une partie des travailleurs étrangers qui sont en Angleterre qui ont ce comportement. Donc les services de l'État sont un peu submergés en Angleterre. Il faut peut-être embaucher un peu. Ensuite, vous avez des travailleurs étrangers qui sont toujours en Angleterre, qui quittent l'Angleterre. On parle beaucoup de Polonais, puisque apparemment ils sont presque 1 million en Angleterre. Eh bien, il y a un flux qui s'est passé dans les grandes émissions d'informations des radios et télé. Un flux, ils retournent au pays. Ils ne se sentent plus aimés, de toute façon. Ils se sentent, par le vote, ils se sentent rejetés. Vous savez, le fameux plombier polonais, mais aussi des Français. Et personnellement, j'en connais qui sont rentrés. D'autre part, et ça c'est aussi un peu la même chose, vous avez des Anglais qui vivent en France. Il n'y en a pas loin de 400 000 quand même. Hein. Et en Europe, ils sont plus d'1,5 million à vivre en France.
Alors, est-ce que ces Anglais, justement, qui sont sur le sol français, vont devoir repartir? Ou auront-ils le choix de rester en France s'ils ont, par exemple, la double nationalité?
Alors, l'Europe s'est engagée très clairement et a dit très clairement que les Britanniques qui étaient sur le sol européen étaient chez eux sans difficulté aucune.
D'accord.
Voilà, clair, net et précis.
Donc ça reste un choix personnel.
L'Angleterre a dit la même chose de son côté. Il faut le savoir, déjà, pour rassurer les expatriés, quelque part. Mais c'est la mise en application de ce qui est dit.
Hein. Oui.
Alors, en ce qui concerne les pays européens, du moins les grands pays européens, je veux parler de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Allemagne, etc. Peut-être pas les pays plutôt hongrois, Pologne, etc. Hein. Les Anglais qui sont là, comme venant d'autres pays, des Nordiques, par exemple, seront bien accueillis, il n'y a aucun problème. Et ils auront leur place. Il n'y aura pas de rejet. Du moins, on ne le trouve pas, par exemple, à travers toutes les campagnes électorales, de rejeter ceux qui sont venus habiter chez nous de ce point de vue.
Oui.
C'est souvent des retraités. Il faut être clair là-dessus aussi. Si vous allez en Espagne, sur la côte au soleil, vous avez beaucoup de retraités britanniques qui en profitent.
Oui, tout à fait.
Voilà, j'ai rien à dire.
Il y a aussi quelques travailleurs quand même qui travaillent par chez nous en France.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que... Justement, toutes ces, j'allais dire, turbulences européennes, que ce soit le Brexit, que ce soit les élections françaises, est-ce que ça va avoir un impact, parce que tout arrive là en ce printemps, est-ce que ça va avoir un impact sur le tourisme? Parce que ça, c'est une grosse économie pour la France.
Oui, tout le monde s'en fait souci par rapport au tourisme. Mais est-ce que ça a un impact immédiat? Apparemment, non. Ça n'a pas d'impact immédiat. Alors, tout le reste va être réglé dans des négociations. Après, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, peut-être de la psychologie. Le touriste anglais, pour l'instant, était très bien accueilli.
Mm-hmm.
Mais est-ce que demain, le même touriste anglais, en raison de cet état de tension, et qu'il ne va pas entendre dans la rue quelques réflexions désagréables? Et tout ceci, avec les réseaux sociaux, se répand à toute allure. Et donc, est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu cet effet? Est-ce que, par exemple, dans les échanges linguistiques mis en place dans les collèges ou lycées, est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui vont dire « Oui, je suis d'accord, oui, mais, mon fils, ma fille, avec sa classe, part 15 jours en échange en Angleterre. » Est-ce qu'il n'y en a pas des familles qui disent « Ah non, ces Anglais, je ne veux plus les voir, je ne veux pas qu'ils y aillent. » Vous voyez, ça relève de la psychologie, là aussi, mm-hmm. On la retrouve.
Oui.
Pour l'instant, on ne voit pas ce phénomène. Soyons clairs, on ne voit pas ce phénomène.
Hein, oui.
On s'attendait peut-être à avoir des choses plus fortes, mais on ne le voit pas.
Oui.
Par contre, ce qu'on voit, c'est déjà des conséquences économiques.
Mm-hmm.
Économiques précises. Hein. Premier exemple, les grandes banques, les grandes sociétés financières de la City de Londres annoncent d'ores et déjà, et ont déjà mis en pratique, un déplacement d'une partie de leurs salariés vers l'Europe. Vers la France, vers Francfort, vers Amsterdam, même vers Dublin apparemment. Donc ces grandes banques déjà se prépare à avoir, si vous voulez, de grosses filiales, certainement. Pas le siège social, il restera là-bas, certainement, mais à avoir de grandes filiales en Europe. C'est le phénomène de la frontière. Jusqu'à présent, dans l'Europe, les grandes banques britanniques de la City bénéficiaient de ce qu'on appelle le passeport bancaire. C'est-à-dire qu'elles pouvaient travailler, comme tout le monde, dans tous les pays européens. Lorsque la frontière s'établit, elle se retrouve comme la situation suisse. Mmh. C'est-à-dire que les banques suisses n'ont pas le droit de venir démarcher des clients en France.
Oui.
Elles le faisaient d'une manière très cachée et secrète et elles se sont fait prendre.
Oui.
Et elles vont être condamnées lourdement d'ailleurs.
D'accord.
Voilà. Mmh. Donc ces banques viennent. La même chose pour des entreprises britanniques qui, parce qu'il faut le savoir, la Grande-Bretagne est le premier client en balance excédentaire commerciale pour la France. Alors, vous vous rendez compte, ça va avoir des conséquences aussi sur nos entreprises. Donc, elles sont déjà en train de s'adapter. Pourquoi pas pour une entreprise française ou allemande avoir une filiale en Angleterre, c'est ce que les Anglais espèrent. Mais surtout, les entreprises britanniques, pour elles, l'Europe, c'est l'essentiel de leur commerce international.
Alors, pourquoi quitter l'Europe ?
Ah ben, votation populaire. On ne sait pas si on consulte l'ouvrier et l'ouvrière de base, le peuple, les retraités.
Il faudra dire le salarié peut-être.
Il faudrait dire le salarié, bien sûr. Et ce que va donner le vote. Le vote traduit tellement de choses. Est-ce qu'il traduit ? C'est toujours le problème du référendum. Est-ce qu'on répond à la question ? En France, on le sait, dans un référendum, on ne répond jamais à la question, mais on répond à autre chose. C'est-à-dire souvent un refus du gouvernement. Et donc, est-ce que cette votation britannique ne s'est-elle pas faite de cette façon ?
Mmh.
On refuse vraiment l'autre que l'on ne connaît pas. Voilà. Ça a été le fait, c'est ça qui a été extraordinaire.
Oh oui.
Le parti travailliste anglais était pour l'Europe. Là où le parti travailliste anglais est fort, dans les banlieues, dans les villes populaires ou dans les endroits en désastre économique, eh bien là, c'est là où le refus de l'Europe a été le massif. Et le parti travailliste anglais est obligé de s'adapter, sinon il perd tous ses élus.
Mmh.
Le plus fort taux de vote de refus de l'Europe, de Brexit, c'est les villes qui ont eu le plus de subventions de l'Europe. Manchester particulièrement, par exemple, qui est une ruine industrielle, avec la fin des mines, etc. Eh bien, là, l'Europe a aidé massivement pour reconstruire, pour aider, pour refaire, pour tous les ponts, les routes, l'aménagement urbain, les écoles, tout. Et c'est les impôts des Européens qui ont financé tout ça. Et là, ils ont voté à 70%, on se barre de l'Europe. Incroyable, n'est-ce pas ?
Mmh. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y aura des retombées ? Et là encore, des deux côtés, c'est-à-dire de par le Brexit peut-être, mais aussi de par les élections présidentielle française, est-ce qu'il y aura des retombées, alors pas économiques, parce que je ne pense pas, ça serait peut-être le contraire. Est-ce qu'il y a un risque pour l'agriculture française ?
Ah ben, il y a un risque pour l'agriculture française, bien entendu, mais il est tout à fait global et je vais y revenir. Parce que le risque majeur, il est d'abord pour l'agriculture britannique. L'agriculteur britannique, comme l'agriculteur français, bien, il recevait de l'Europe, bien sûr, des subventions à la production, à l'hectare. Ça se ferme, ça va se fermer radicalement. Donc, est-ce que le gouvernement britannique, qui est peu interventionniste pour l'instant, qui est très libéral, va remplacer l'Europe ? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Donc, on revient sur l'Europe. Alors, moi, je ne parle pas que de l'agriculteur français, je parle de l'agriculteur européen.
Oui, tout à fait.
Donc, si la frontière se ferme, un certain nombre de productions européennes vont se trouver, si les Anglais le souhaitent, c'est le problème des droits de douane, vont se trouver peut-être en difficulté chez leurs clients habituels en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne importe beaucoup de produits agricoles. Pour l'Espagne, c'est un marché très important. En primeur, très mm-hmm. important, comme l'Allemagne d'ailleurs pour l'Espagne ou le Portugal ou l'Italie. Donc c'est un marché qui risque de se fermer partiellement, totalement. Attendez, soyons honnêtes. Demain, il y aura les fraises de l'Argentine à Londres. Pourquoi pas ? On a déjà bien les ananas, les pommes, etc. Pourquoi pas ? Et donc, une agriculture européenne va en souffrir certainement, parce que les Anglais importent beaucoup de produits agricoles européens. Voilà. Au lieu d'acheter le blé en Europe, eh bien, ils l'achèteront peut-être aux Américains, aux Canadiens qui sont prêts. Ils sont prêts à les fournir, ce n'est pas un problème. Donc il y aura cet effet. Le deuxième effet qu'il faut aussi bien intégrer dans l'agriculture européenne. Les Anglais disaient toujours « ça coûte trop cher ». Le Brexit va avoir des effets sur la gestion de l'Europe. Est-ce que ça ne va pas amener le Conseil européen à réduire la voilure, comme on dit ? C'est-à-dire à réduire les dépenses. Et donc, les subventions européennes, est-ce qu'elles ne vont pas, à cette occasion, connaître une baisse dans l'agriculture ? Grand débat, qu'il faudra d'ailleurs faire une écho en folie sur ce thème-là.
Est-ce que l'agriculture est un monde qui va devoir s'adapter, peut-être ? Est-ce qu'il ne risque pas de disparaître ?
Ah, grand sujet. L'agriculture ne disparaîtra pas. Pourquoi voulez-vous ?
Il y a Je ne sais pas. Point de vue économique, peut-être. Je ne sais pas.
Du point de vue économique, si ça crée des déséquilibres, mais la population mondiale augmente, augmente rapidement, massivement, et il faudra bien la nourrir.
Oui, mais on la nourrit avec de l'industriel maintenant.
Oui, mais l'industriel lui-même, il faut le produire. C'est un débat extrêmement délicat, si on oppose industrie et agriculture, parce que honnêtement, si on regarde en France ou en Allemagne ou ailleurs, ne parlons pas dans certains pays en voie de développement, hein, je vais donner quelques exemples peut-être après, la frontière est minime quand même. Quand vous voyez une agriculture ici, tranquille, 100 hectares, 80 hectares, un peu de polyculture des fois, etc. Mais si vous allez un peu plus loin, dans notre région, vous en avez quelques-unes, où vous avez 300, 400 hectares, on transforme sur place, on a l'usine, on a derrière le bétail, etc. La frontière, elle est où, quoi, entre l'industriel et l'agriculture ? Est-ce qu'on n'a pas toujours pareil une idée de la nostalgie de l'agriculteur, qu'eux-mêmes, d'ailleurs, récusent largement, hein, puisqu'ils ne se battent pas pour le maintien des petites exploitations, ils sont pour le regroupement des exploitations, apparemment. Je donnerai un exemple de ce passage industrie. Les Chinois investissent dans les terres du tiers-monde, en particulier en Afrique. Ils font des usines. Par exemple, les Chinois, une société chinoise, et ça date de nombreuses années, et d'ailleurs ça me fait plaisir d'en parler à Radio Galaxy, parce que je pense à son Sénégalais de service, les Chinois ont acheté le long du fleuve Sénégal 20 000 hectares, voilà, d'un morceau de terre, évidemment irrigable par le fleuve.
Et oui.
Voilà, ils vont faire une agriculture d'une manière, on va dire, industrielle. Ils ont même importé la main-d'œuvre chinoise. C'est-à-dire qu'il y a très peu de Sénégalais qui travaillent dans cette exploitation énorme, ultra mécanisée.
Oui, mais ça, économiquement, c'est pas bon.
Et économiquement, ça tourne. Pour les agriculteurs sénégalais, c'est une cata, soyons clairs.
Tout à fait.
Les meilleures terres sont parties.
Oui. Voilà. On va revenir un petit peu sur le Brexit. Ces jours-ci, je crois que c'est la semaine dernière, me semble-t-il, ou en tout cas, bon, voilà, ça fait peut-être, allez, on va dire 3 semaines en gros. L'Irlande du Nord et l'Écosse ont demandé un nouveau référendum. Est-ce qu'on peut extrapoler ici, dans Écho en folie, le résultat ?
On est dans le secteur plutôt politique. L'Irlande du Nord a déjà...
Oui, politique peut-être, mais aussi économique.
Pour l'Écosse. L'Irlande du Nord n'est pas l'Écosse et même l'Angleterre. L'Irlande du Nord n'est pas un pays économiquement important.
Oui, mais ils veulent se rallier quand même à l'Europe.
Non, l'Irlande du Nord, non. Prenons l'Écosse. L'Écosse, il y a les indépendantistes.
L'Écosse veut se rallier à l'Europe. Et l'Irlande du Sud veut rester aussi européenne. On est bien d'accord.
Oui, d'accord. Une partie de l'Écosse.
Oui.
Et donc pour eux, c'est de rester européen. Donc les indépendantistes vont profiter de cette situation pour essayer d'obtenir l'indépendance. Et ils risquent, s'il y a un vote, de l'obtenir, parce que les Britanniques, les Anglais ne sont pas à 100% pour le Brexit. Ça s'est joué à quelques points, c'est tout.
Oui.
Hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est 52 à 49, cet ordre-là. Donc, certains vont voter ou voteront pour une indépendance. Pour l'Écosse, c'est ça. Mais l'Écosse est un pays qui veut devenir indépendant parce que de toute façon, ils ont des ressources naturelles encore qu'ils exploitent. Mais le jour où il n'y aura plus de pétrole et de gaz en mer du Nord, que deviendra l'Écosse ? L'air de rien. Bon, passons. Oui. L'Irlande du Nord, c'est beaucoup plus compliqué. L'Irlande du Nord n'a aucun avantage économique. C'est un pays d'agriculteurs classiques irlandais et qui est profondément divisé entre les communautés anglaises, qui ne sont pas catholiques, et la communauté irlandaise de tradition catholique. Donc c'est très politique. L'Europe avait permis, après que les Britanniques aient fait la paix là-bas, de faire que ces deux communautés se mettaient à vivre ensemble et elles échangeaient librement, il n'y avait pas de frontières avec l'Irlande. Donc, pour l'instant, le processus de réunification, évidemment, est complètement bloqué ou progressé à petits pas.
Oui.
La communauté catholique veut la réunification, la communauté protestante s'y oppose, celle qui est Grande-Bretagne,
oui.
S'y oppose. Si vous rétablissez la frontière entre l'Angleterre et l'Europe, eh bien, en Irlande, vous avez de nouveau la frontière telle
D'accord.
qu'on l'a connue. Et que disent les indépendantistes ? Eh bien, on est prêt à reposer des bombes et à tirer dans tous les coins.
D'accord.
Et donc,
économiquement, ce n'est pas bon.
Économiquement, pour eux, ils sont déjà sous perfusion européenne et du gouvernement britannique, il faut le savoir.
Mm-hmm.
Hein ? C'est un pays très pauvre qui n'a pas de richesses naturelles.
Il y a, oui.
Même s'il y a quelques usines qui sont venues profiter de salariés bon marché, n'est-ce pas ?
D'accord.
Voilà.
Est-ce que, si jamais, ça ne va pas fragiliser le Royaume-Uni, tout ça ?
Mais
et donc remettre en question ce Brexit ?
La première conséquence économique dans le Royaume-Uni, c'est une baisse forte, 15%, 20% du sterling. Donc cela a entraîné tout de suite une hausse des prix importés. Donc les ménages, petits ménages ou les grands ménages, en termes de revenus, bien, ils l'ont vu tout de suite dans leur portefeuille. Eh bien, par exemple, en Angleterre, il y a une partie du peuple qui attendra la saison des fraises avant d'en acheter, parce qu'elles sont devenues très chères. Les asperges, n'en parlons pas. Il y a eu un effet immédiat sur l'évolution des prix. Donc, ils l'ont senti de ce point de vue. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de touristes anglais en Europe cet été. Il y aura un effet sur le tourisme. Parce qu'une partie de la population anglaise, la classe moyenne, eh bien, elle voit son pouvoir d'achat qui a diminué, mais d'une manière significative.
Hein. Oui.
Ah oui, oui. C'est pas anecdotique.
Donc, voilà, tout ça, ce n'est pas bon pour l'économie
déjà
française.
C'est pas bon pour eux. Et ça serait pas bon pour notre économie si le nombre de touristes diminue, anglais.
Oui. Donc, qui dit touristes en diminution, dit consommation aussi en diminution.
Ah ben oui.
Et économie locale en diminution.
Ben oui.
Mais d'accord.
On le verra très vite, d'ailleurs. C'était des choses qui pourront être mesurées dès le mois de mai en Occitanie, apparemment. Oui, oui. La venue ou pas des touristes anglais et leur nombre. C'est une période où ils viennent nombreux.
Et l'élection française avec le tourisme, ça sera encore conciliable ou il faudra attendre justement la rentrée pour pouvoir repartir ?
Non, ça n'inquiète personne pour l'instant. L'élection française, on l'a vu. Tout le monde continue sa vie. Tout le monde continue à faire acheter ceci, cela. Ceux qui en ont envie vont se payer une voiture. J'ai oublié une chose. L'immobilier continue, mais à fond, hein. Le nombre de transactions augmente, le prix du mètre carré augmente. Voilà, ce qui est un paradoxal, parce que le prix du mètre carré en France est le deuxième plus élevé en Europe. Le premier, c'est en Angleterre. En Angleterre, le prix du mètre carré dans l'immobilier est plus cher qu'en France. Ensuite, il y a la France. Et puis après, mais alors beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus bien meilleur marché, les pays européens comme l'Allemagne. Mais l'Allemagne, on peut diviser le prix de l'immobilier par 2,5.
Ah oui.
Ah oui, c'est même les Pays-Bas, qui nous étonne un peu, parce que c'est un pays très très ramassé, très petit, très concentré. En fait, l'immobilier, par rapport à nous, est extrêmement bon marché. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi c'est aussi cher en France ? En Angleterre, on le sait, parce qu'en Angleterre, il y a une pénurie absolument colossale de logements. y a très très peu de permis à accorder d'abord, et ensuite le sol est très très cher. Donc il y a un effet sur les prix qui est très important. Alors que au-delà de la capitale, et Londres c'est hors de prix, comme Paris, comme Francfort, bien sûr, je veux dire sur le marché général. Et en France c'est très très cher. Et d'ailleurs, même moi personnellement, quand on réfléchit par rapport au centre-bourg de nos villages qui se vident, hein, de leur population, de leurs magasins, moi je suis aussi très très étonné. Vous prenez, je ne citerai aucune des villes qui sont autour de Radio Galaxie, mais je pense à plein. Quand vous dites à quelqu'un, ben, tu cherches un appartement, va-t'en là, il y a la rue, il y a plein de logements vides, ils y vont et ils trouvent les mêmes loyers, le même montant de loyer que dans la première couronne toulousaine. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'un T2 de 40 mètres carrés, on le loue ici dans le Volvestre à 500-600 euros mensuels, voilà, dans un centre-bourg vide, dans un immeuble vide ou quasiment vide, et que on peut se loger pour le même prix en couronne toulousaine.
Oui, à proximité du travail.
Voilà. Il y a quand même des paradoxes énormes. Là, logiquement, alors là c'est une règle économique, logiquement, le prix doit refléter la demande. Mm-hmm. Voilà. Et non, on a apparemment là aussi des comportements des propriétaires qui sont paradoxaux. Il y en a beaucoup qui apparemment préfèrent avoir un immeuble vide, en train de se dégrader, plutôt que de louer quelque chose.
Mm-hmm. Voilà, Bernard Ferrand, on a essayé en tout cas de voir les impacts économiques pour nous, donc ici en Volvestre peut-être, mais un petit peu plus généralement dans le monde, avec bon, les élections françaises, puisque nous sommes les premiers concernés, mais aussi avec Brexit anglais, cet article 50 anglais qui a été lancé, et donc on ne connaît pas encore toutes les retombées finalement.
Ah non, on ne connaît pas toutes les retombées, ça va être voilà. Une négociation hard.
Une conclusion ?
Une conclusion, ça serait une bonne chose que dans la campagne électorale, on continue à parler, mais peut-être plus sérieusement, de l'économie. De l'économie, donc de la situation des entreprises, de la situation du marché du travail, des conditions juridiques du travail, que l'on reparle de quelque chose qui est essentiel pour le futur, c'est l'idée d'un revenu universel, hein, d'un minimum pour toutes les personnes dans notre pays, c'est ça la solidarité. Et ensuite, le problème des inégalités économiques, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, je trouve, dans la campagne électorale, il faudrait que ça continue et qu'on en reparle. Parce que c'est anormal de voir une progression des 10% de la population les plus riches qui augmentent jusqu'où leur richesse, au détriment de ceux qui restent au plancher. C'est une réalité. Et puis, dans la campagne électorale, il y a un sujet qui a été très très peu abordé, et c'est un peu inquiétant, c'est la retraite. La retraite a été dit, ça est un chiffon rouge, les candidats disent on va reculer l'âge de la retraite, mais au-delà de ça, on n'en parle pas beaucoup, de fait, des conditions de la retraite, du devenir des personnes retraitées et donc du système de santé. Voilà ma conclusion. On devrait en parler un peu plus.
Merci Bernard, à bientôt.
À bientôt.